Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversé, Philippe.
Cinéma ! Cinéma !
Vous ne trouvez pas ce film formidable ? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique préférée, uniquement sur Transistor et plus précisément en ce beau mois de mai, le Comptoir du Festival de Cannes, puisque l'événement est couvert par vos chroniqueuses et chroniqueurs préférés. Et ce soir, au Studio de Fortune, je suis avec Mélusine. Mélusine, bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas, Mélusine ?
Bah écoute, ça va. On tient le rythme, ouais, ouais. On voit des choses très différentes. Et surtout, je pense qu'on se laisse surprendre quand on loupe des séances le matin, on va en voir d'autres. Et c'est pas plus mal de découvrir des choses comme ça à la dernière minute, un peu fatigué, mais c'est marrant.
La surprise et l'improvisation, ce sont les deux mots au programme de ce 7e épisode du Comptoir du Festival. Peut-être le dernier dans un format un petit peu classique, puisque le prochain épisode sera consacré à un ensemble de rattrapages de films en compétition officielle. Mmh. Et le 9e et dernier épisode sera quant à lui consacré au palmarès et à la cérémonie de clôture du festival. Je le disais, improvisation et surprise aujourd'hui au programme, puisqu'on va encore vous parler de trois films, une fois n'est pas coutume. Mais de deux films français que l'on ne s'attendait pas forcément à voir figurer dans nos visionnages cannois. En premier, on commencera par le nouveau film de Thierry Cliffa, porté par Isabelle Huppert et Laurent Lafitte, à savoir La femme la plus riche du monde. Puis l'on parlera du dernier film de Martin Bourboulon, projeté hors compétition en séance de gala ce vendredi soir, que l'on a pu voir avec Mélusine. 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul, porté quant à lui par Roche Dizem. On terminera par un petit coucou à Stanley Kubrick et à son Barry Lyndon.
Et à Marisa Berenson.
Et à Marisa Berenson qui nous a fait l'honneur de sa présence, puisque Barry Lyndon, pour les 50 ans du film, faisait l'honneur d'une projection Cannes Classics de toute beauté.
On commence c'est assez donc... éclectique.
Oui, c'est assez éclectique. Hein, c'est vraiment... Mais vous n'êtes pas prêts pour les liens qu'on va faire. Enfin, j'en dis pas plus.
Moi non plus,
mais,
je suis pas prête.
Voilà. Je te propose, Mélusine, de commencer peut-être par 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, qui est peut-être un peu plus frais dans nos têtes.
Qu'on a vu bien habillé.
Qu'on a vu très très bien habillé, en présence de toute l'équipe du film, de Karim Benzema, parce que pourquoi pas.
Parce qu'il sort avec Lina Koudry.
Parce qu'il sort avec Lina Koudry qui joue dans le film. Et qui nous a plutôt agréablement surpris, on va y revenir. 13 jours, 13 nuits, donc, dans l'enfer de Kaboul, c'est un film qui est adapté d'une histoire vraie, en fait plus particulièrement du témoignage slash mémoire d'un ancien soldat français qui était donc basé à Kaboul et qui a dû faire face avec ses équipes à l'évacuation, comment dire, dans le rush et sous pression de Kaboul et des ressortissants français à Kaboul lors de la prise de pouvoir des talibans il y a de ça déjà 4 ans. C'est un film qui est très inspiré des, comment dire, de la tendance des films américains post-11 septembre, très, très inquiets, des thrillers vraiment nerveux, et qui se pose de façon assez assumée dans la continuité de ce style-là. On peut mentionner le film de Ben Affleck, Argo, film d'ailleurs souvent à la qualité un peu discutable, hein, ou alors peut-être... Dans la partie la plus réussie de ce genre-là, les films de Catherine Bigelow sur le sujet, et notamment Zero Dark Thirty. Bon, Martin Bourboulon n'est peut-être pas encore Catherine Bigelow, mais en tout cas, il s'en tire plutôt pas trop mal avec ce film-là par rapport aux deux volets des Trois Mousquetaires qu'il avait signé ces dernières années.
Ou à Eiffel.
Voilà, Eiffel aussi, il y a un peu plus longtemps, qui n'en faisait pas forcément le réalisateur le plus estimé, au moins à nos yeux. Là, il revient avec un film plus nerveux, avec plus d'action, quelque chose qui est peut-être plus dans ses cordes, puisqu'en fait, dans le film, on va suivre l'histoire de ce soldat-là qui est joué par Roche Dizem, et qui va en fait organiser de bout en bout l'évacuation de Kaboul et l'évacuation de tous ces gens-là. Et ça va jouer sur pas mal de ressorts dramatiques et de jeux de tension, notamment avec le fait donc de sortir de Kaboul en toute sécurité, les négociations avec les forces talibanes sur place, toute la question de savoir de comment on peut quitter cette ambassade-là, est-ce qu'on la quitte par les airs, est-ce qu'on la quitte par les routes, de comment on gagne un aéroport qui n'est pas à côté, qui est en dehors de la ville. Et ça joue aussi sur toute l'isolation de ces troupes-là dans l'ambassade. Voilà ce qu'on peut en dire rapidement. Mélusine, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bon, alors, ça se regarde. C'est pas désagréable, c'est plutôt bien enlevé. Effectivement, un rythme assez américain, encore une fois, des références que t'as citées. Je te rejoins complètement. J'ai deux grosses critiques qui m'ont quand même empêché d'aimer le film. C'est la colorimétrie et l'éclairage.
La photographie, c'est immonde.
Ouais, de manière générale, la photographie est un peu calamiteuse. Le pauvre Hachdizem est vraiment orange, quoi. Donc ça, c'est les espèces d'esthétiques de néon pseudo années 70-80, mais en fait hyper saturé, assez moche.
C'est pas tellement néon, c'est vraiment plus couleur très très saturée, ocre très saturé, et
bleu,
qui contraste d'autant plus du coup avec des bleus eux-mêmes très saturés. Enfin, ça crée quelque chose de très étrange à l'écran, et surtout en plus, enfin, on a l'impression que du coup ça esthétise presque inutilement,
oui, c'est
et
ça.
Vraiment dans un too much qui est complètement hors sujet et hors propos, l'Afghanistan tout simplement, une station qui n'a pas lieu d'être, donc c'est un peu étrange.
Ça c'est bizarre, et effectivement comme tu dis c'est un peu hors propos, je trouve. Et la deuxième chose, c'est un peu ce qu'on disait en sortant, c'est une morale qui est assez douteuse, une espèce de m'as-tu vu, de photobombe, de sensationnalisme qu'il y a dans le film, et qui pareil ne s'y prête pas tellement, parce que on est vraiment avec du coup cette famille, Lia Koudry et sa mère qu'elle tente de sauver, qui sont elles les protagonistes qui vont se rapprocher de Hachdizem et l'humaniser un peu plus, parce qu'il est un peu tiraillé en gros par Christophe Montenez qui joue son second, qui lui veut absolument se barrer et ne pas sauver toute la population qui en demande, et son côté plus sensible, plus empathique, qui va être confronté dans des moments de tension dramatique assez forte. Notamment il y a une scène où les rescapés essayent d'entrer donc dans la zone protégée. Et les soldats américains essaient de faire un tri très vague, très arbitraire, entre le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir. Ils ouvrent les portes et il y a une salve de personnes qui traversent cette espèce de barrière, et le reste qui reste parqué littéralement de l'autre côté.
C'est au moment de l'entrée dans l'aéroport
pour entrer dans l'aéroport. Et donc ce moment-là, en fait, il est assez exemplaire de ce sensationnalisme un peu dérangeant quand même, qui fait de ce moment absolument terrible un moment de plaisir visuel et de je suis contente de pas être là, quoi. Enfin, donc je trouve que ça, et puis même niveau manichéisme, on est vraiment au summum, au sens où il y a des gentils, il y a des méchants qui d'ailleurs on ne voit quasiment pas, sauf à un moment de négociation dans la langue, parce que Lia Koudry du coup fait l'interprète entre les talibans et Hachdizem. Donc on voit un peu les méchants du film. Mais ils sont... en soi, ils peuvent ne pas être humanisés, mais simplement, c'est vraiment des clichés, quoi, des talibans. Et donc, on n'a pas de personnage de talibans. C'est une espèce de groupe sans nom, sans identité, qui fait du mal à la population. La population est aussi prise comme une masse.
Ouais.
À part deux, trois personnages, on a accès à pas grand monde. On a une journaliste, Lia Koudry, et sa mère, quoi, en gros. Le reste, c'est une espèce de masse informe et anonyme. Et donc tout ça, ça manque de précision, ça manque de clarté,
ça
manque de nuances. Ouais.
En fait, le problème, c'est ça, c'est que Bourboulon, pour le coup, là, il pêche...
Et même, encore une fois, les soldats, pareil, ils
sont
assez dessinés à gros traits, quoi. Ouais,
c'est-à-dire que... pour être un peu tendre avant de le critiquer avec le film, c'est vrai que foncièrement il se suit sans trop de déplaisir, c'est vraiment plutôt bien rythmé et il a vraiment pas tous les problèmes, que ce soit narratif et surtout de mise en scène, enfin en tout cas dans la pure efficacité, on va dire, que pouvaient avoir les Trois Mousquetaires, qui pour moi vraiment étaient assez catastrophiques. Pour autant, c'est vrai que autant il est peut-être un peu plus à l'aise, son film est peut-être un peu plus efficace, enfin se regarde juste avec un peu plus de plaisir. Pour autant, il y a des, enfin je veux dire, Bourboulon il pêche sur les questions clés de ce genre-là, c'est-à-dire que bah il est malheureusement pas du côté Catherine Bigelow, mais plus du côté Ben Affleck, avec une objectivisation des populations qu'il représente, des forces en présence dans son film, de façon assez caricaturale. C'est-à-dire qu'en dehors de Roche Dizem, qui même lui en fait a un côté un peu caricatural de personnage, on va dire un peu tout bon et très humaniste et sans vraiment de défaut, même si c'est peut-être celui qui est le plus creusé et qui est le plus nuancé du lot.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'entre les soldats français qui en fait ou américains qui
même les soldats américains, ouais.
Oui, qui en gros veulent juste rentrer chez eux, faire leur boulot de façon très propre, sans penser à ce qu'ils font, et qui en fait sont dans une forme de caricature où jamais ils ne se posent la question de ce qu'ils sont en train de faire, même quand on leur pose la question. C'est assez limité, même si c'est déjà un peu moins le cas avec les soldats français en vrai, parce qu'il y a, enfin, notamment il y a toute une opposition entre Roche Dizem et un autre soldat français qui lui est pour en fait juste se barrer de Kaboul en laissant les gens. Et ce personnage-là, il a, comment dire, enfin, à un moment, il se retourne un petit peu, il comprend quand même le point de vue de Roche Dizem et il finit par le suivre. Mais c'est vrai que de l'autre côté, la population afghane, elle est filmée comme une masse. Dans les séquences de tension, en fait, c'est quasiment comme si elle était filmée comme presque comme des zombies, en fait. Enfin, c'est la critique qui avait été faite dans les films américains de ce genre-là, et particulièrement sur le Ben Affleck, sur Argo. Les talibans, pour le coup, alors non pas qu'il faille faire des talibans des bisounours, vraiment, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire, mais pour autant, ils sont vraiment filmés de
façon... Non, mais ils sont pas définis, quoi, c'est plus ça qui est gênant.
Ils sont pas définis, en fait, ils sont définis que par leur étiquette de talibans.
C'est ça.
On les voit que dans des moments de négociation, et même là-dedans, en fait, ça reste tout le temps une espèce de cliché, ce qui est assez dommage, parce que en dehors de ça, en fait, le film développe des trucs plutôt intéressants, plutôt touchant même, et tu sens qu'en fait il est pas dans la complète caricature et qu'il se pose la question à certains moments de ce qu'il montre, notamment il y a cette conscience qui est paradoxale de on essaye de sauver les gens et en fait ils passent pas mal de temps à nous identifier les personnes qu'ils essayent de faire passer dans cet aéroport et donc de faire passer en France, notamment à travers le personnage d'une journaliste américaine qui est parmi donc c'est les gens à faire évacuer. Et qui en fait, en plaidant la cause des gens avec qui elle est, raconte, enfin, les présente brièvement par leur histoire, c'est-à-dire qu'elle nous présente des artistes, des professeurs, ce qui fait que d'un coup les personnages prennent un chouïa plus d'ampleur et de profondeur, ils seront jamais développés outre mesure, mais en fait d'un coup c'est plus juste, comment dire, un Afghan random ou une Afghane random, c'est quelqu'un avec avec un peu plus de corps, avec un peu plus d'histoire, et en même temps, ils continuent de les filmer comme ils filment les gens qui sont pas pris comme des masses, alors que c'est précisément le sujet de son film, c'est qu'en fait c'est un peu le problème de ces films là c'est que c'est des films qui racontent des échecs, à savoir on n'a pas pu entre guillemets sortir tout le monde ou faire tout ce qu'on voudrait, et qui se terminent tout le temps par un happy end on a réussi à faire ce qu'on voulait, alors que foncièrement c'est pas vrai. Et c'est là que la mise en scène de Bourboulon, et ce qu'on disait sur la manière dont il filme les masses de réfugiés, le fait de les filmer comme des masses, en fait, justement, c'est que justement, il se termine sur cette idée qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, on a réussi à sortir les gens qu'on voulait sortir, mais en fait, du coup, il oublie dans le hors-champ ces gens-là qu'il a laissés sur place.
En tout cas, il le laisse pour les cartons de fin, quoi.
Ouais, et ça, c'est un peu dommage pour le coup.
Non, moi j'ai rien de plus vraiment à dire sur ce film. Mais...
Non, en fait c'est un film assez, assez banal, en fait, entre guillemets, qui tire pas forcément son épingle du jeu, dont on sent qu'il était en compétition officielle, peut-être, mais qu'il était projeté en séance de gala.
Ouais.
Peut-être aussi plutôt parce que c'était Martin Bourboulon à la Réal et qu'il avait un casting un peu prestigieux. Mais voilà, pas non plus de haine démesurée contre ce film. C'est sans être un gros ratage non plus, c'est loin d'être un film mémorable et une pleine réussite. Il passe un peu à côté de son sujet, alors que pourtant on sent qu'il y a quand même une certaine dévotion, notamment de Roche Dizem dans son rôle. Il y a eu tout un travail en fait avec le soldat qui était à Kaboul et qui a écrit ses mémoires, enfin en tout cas le récit de cet épisode-là. et qui a participé à l'écriture du film, enfin qui est resté un peu comme consultant et tout. C'est dommage d'être passé, même formellement en fait, à côté de ça, d'avoir signé finalement un thriller assez banal et peut-être pas assez critique. Voilà donc pour cette critique assez courte, hein, aujourd'hui on est dans un épisode assez court, de 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, que vous pourrez retrouver bientôt en salle, avec Roche Dizem et Lina Koudry entre autres. On reste dans le giron du cinéma français et on revient sur un film qu'on avait vu un peu plus tôt avec Mélusine dans une séance du matin, à savoir le nouveau film de Thierry Cliffa, La femme la plus riche du monde, lui aussi inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs, qui nous fait suivre les aventures d'Isabelle Huppert et de Laurent Lafitte, la première étant tout simplement la femme la plus riche du monde, à un moment dans le film en tout cas, enfin une femme richissime, et qui est progressivement gagnée, rongée, on pourrait dire, par la présence de Laurent Lafitte, qui est un espèce d'escroc qui en fait s'attache à elle et à sa richesse comme une sans-vue, et qui entre du coup de fait en conflit avec la famille du personnage d'Isabelle Huppert, qui le voit comme un parasite et qui essaye de le dégager, qui essaye de dégager Isabelle Huppert de son emprise. Le film tourne beaucoup autour de cette question-là. Il y a une grosse forme de rise and fall parce qu'en fait on suit beaucoup le personnage de Laurent Lafitte. Et que du coup on le voit devenir de plus en plus puissant, avoir de plus en plus d'emprise sur Isabelle Huppert et sur ses activités, etc. Et en même temps on assiste à la fin à sa chute, puisque le tout se termine en scandale, enfin c'est adapté d'une histoire vraie de toute façon, pas vraiment un spoil que de vous dire ça.
Non, à partir du moment où c'est inspiré de Bettencourt, voilà. Voilà, et du ça. Photographe de Bettencourt.
Mais en même temps, le film a quand même l'intelligence de... comment dire, de travailler ça sur un temps assez long et surtout de se positionner assez souvent et de façon peut-être majoritaire même sur le personnage d'Isabelle Huppert de façon, à, en tout cas si, sinon à poser la question, de flouter un petit peu ce rapport-là qui pourrait dire de « Ah, elle s'est faite manipuler » ou « Elle était juste sous l'emprise du personnage de Laurent Lafitte », ce qui est en fait partiellement vrai à l'évidence, mais dont on sent que en fait, il y a une part de vérité dans le discours du personnage d'Isabelle Huppert quand elle raconte son amitié avec une certaine sincérité avec le personnage de Laurent Lafitte. Mélusine, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette femme la plus riche du monde ?
Alors déjà, on l'a vu dans une salle à 9h du matin, parce qu'on ne pouvait pas voir autre chose. On s'est retrouvé avec un public qui était très différent de celui des autres films, donc à savoir un public plutôt âgé, qui a l'air d'habiter plutôt dans le 6e. voilà. Mais c'était, du coup, ça correspondait bien au film et on comprenait au fur et à mesure pourquoi les gens étaient là. La première moitié est vraiment assez drôle. Enfin, ouais. Donc c'est l'irruption de ce photographe dans la vie d'Isabelle Huppert qui peu à peu en fait, devient très amie avec elle. Et ce qui est marrant, c'est l'opposition des performances. Isabelle Huppert qui est très égale à elle-même dans un jeu qui lui est très propre. Hein, un jeu à la fois froid, ironique.
Sobre, et de l'autre... Un peu sobre quand même. Assez,
oui, ouais. Et sobre. Et mais le jeu de Laurent Lafitte qui est absolument exubérant. Ouais. En plus, le film joue sur une espèce de cliché de l'homosexualité, hein, quand même, où en fait, c'est une espèce de monstre de sexe qui, on a l'impression qu'il va coucher avec tout le monde au bout d'un moment.
Oui, lui-même joue là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... voilà. En fait, il y a un peu ce cliché du personnage homosexuel exubérant qui vient, en fait, un peu dynamiter un univers bourgeois.
Déranger un foyer.
Très codifié. Mais de façon très cliché en fait, en faisant tout le temps des blagues de cul assez lourdes, des blagues beaufs, des trucs comme ça.
Mais ce qui n'est pas forcément nul, enfin au sens où c'est plutôt marrant, ça divertit un certain public quoi, mais,
Disons
mais en fait ça perd un peu de son énergie après quoi.
Là où c'est intelligent, c'est que en fait, le film, tout en laissant faire Laurent Lafitte là-dedans et son personnage, en fait faire sortir le côté performance et jeu de ce truc-là, et du coup permet un petit espace critique contre ce personnage là en tout cas ça, c'est plutôt bien fait dans le traitement de ce personnage, c'est pas juste le bouffon de service entre guillemets quoi.
Oui, mais donc voilà, je dirais que la première partie en fait on rentre dedans parce que c'est divertissant quoi, et la deuxième partie qui est plutôt le fall, la chute, elle est quand même un peu plus lassante parce qu'on quand même, on commence à savoir où ça va. Le film se convertit en drame, donc c'était une comédie du dimanche soir, ça devient un drame du dimanche soir, hein. Pour le coup je pense que c'est vraiment un film du dimanche soir. Et le côté drame en fait est peut-être plus grossier encore, parce que justement ce qui était grossier dans la première partie, au moins il y avait du peps, il y avait de l'énergie, la deuxième partie on sait où ça va, et
ça s'éternise un petit peu aussi.
Voilà, ça s'éternise un peu et c'est attendu, et moins maîtrisé. Peut-être qu'en fait, Cliffa préfère la comédie et que ça lui sied mieux. Et puis, encore une fois, oui, un film, je pense que c'est fait pour un certain public et que c'est un humour aussi très franchouillard, très vieille France, voilà, mais en même temps avec des saillies un peu modernes, parce que en fait, les manières de parler des personnages sont très écrites, mais il y a un recul, parce qu'en fait, elles sont presque trop. Je pense que là où, à une certaine époque, les gens s'exprimaient vraiment comme ça, donc de manière très maniérée, avec beaucoup de vocabulaire, ouais, avec un certain ton un peu parigot aussi, en fait, avec le recul de la mise en scène et le too much, comme tu disais, en fait, on vient à s'en moquer aussi. Donc ça, c'est plutôt divertissant, plutôt marrant, quoi.
Oui, non, enfin là encore, le film se suit sans trop de déplaisir, malgré effectivement des longueurs évidentes à certains moments, malgré des vannes vraiment, enfin effectivement vraiment beauf et un peu too much, et où on finit, enfin dont on finit par se lasser aussi. Toutefois, il y a quand même des petits éléments intéressants, en fait, plus en périphérie de ces deux personnages principaux, notamment le personnage qui est incarné par Raphaël Personnas, qui est un peu le valet de maison, qui a d'ailleurs une coupe assez farfelue, un espèce de blond peroxyté. Enfin, c'est un détail, hein, mais c'est vrai que c'est, du coup, à chaque fois qu'il passe dans le film, on se dit, enfin, il détonne un peu lui-même. Et typiquement, enfin, son personnage est assez intéressant dans cette espèce d'espace liminal où, en fait, il joue le valet vraiment un peu toutou, entre guillemets, de la famille. Excessivement loyal, qui fait tout pour se débarrasser de Laurent Lafitte, qui est en fait l'opposé complet du personnage de Laurent Lafitte, puisque là où Laurent Lafitte est vu comme un parasite, lui c'est vraiment le valet sûr, dont on sait qu'il va toujours tout faire pour la famille et tout. Et à la fin, en fait, quand il propose de se sacrifier juridiquement pour la famille, parce que c'est-à-dire, en fait, il propose de témoigner et de risquer de l'emprisonnement, je crois. En témoignant, en fait, il est lâché immédiatement par la famille, parce que c'est juste un pion qui les intéresse pas tant que ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il est persuadé d'être un membre de la famille, tout en sachant qu'il l'est pas complètement. Et à la fin, en fait, il se rend à l'évidence qu'il ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est pas forcément si mal écrit que ça, et même plutôt intéressant et touchant sur la fin. Mais voilà, le film est clairement un peu trop long. On fait clairement des caisses sur certains aspects. Notamment, enfin, le côté Laurent Lafitte qui débarque pour faire des blagues lourdes et sexuelles. Enfin, il y a un moment où on commence à l'avoir vu 10-15 fois, on commence à souffler un petit peu, quoi.
Ouais, si ça faisait une heure de moins, ça passerait.
C'est ça. Et puis mais voilà, c'est pas non plus un film haïssable, juste là encore pas excessivement mémorable, et en même temps qu'il y a quand même ces petits avantages. Enfin, même moi, je trouve que le travail de cadre est plutôt pas mal de la part de Thierry Cliffa. Il y avait vraiment des beaux plans à certains moments, des belles séquences, même narrativement, enfin, qui fonctionnent bien. C'est vrai qu'après, dans l'ensemble, c'est un peu le Barry Lyndon du pauvre, du très 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 pauvre, et avec cette espèce de rise and fall, hein, il y a vraiment pas d'autre lien. Et en même temps, ce côté de personnage un peu, enfin, moi, je sais pas, je trouve ça marrant, ce côté, enfin. Enfin, disons que j'en ai pensé après qu'on ait revu le Barry Lyndon. Vous me direz, transition toute trouvée est formidable. Mais c'est vrai qu'en fait, en y repensant, je me suis dit, c'est vrai que ce personnage de Laurent Lafitte, d'espèce de parasite dont on sent qu'il part, en fait, qu'il n'a pas cette espèce de noblesse que peuvent avoir les vrais riches, entre guillemets, que sont Isabelle Huppert et sa famille, essaye, en fait, de grappiller cette richesse-là, de s'acquérir une forme de noblesse contemporaine, mais échoue et, en fait, finalement, se retrouve exclu et ruiné à son échelle dans cette dynamique de rise and fall que l'on retrouve dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui ressort en version 4K, nouvelle restauration pour les 50 ans du film. Il était projeté en Cannes Classics, en salle Debussy. On a pu le découvrir, présenté par Thierry Frémaux et, surprise, par Marissa Berenson.
Même s'il n'avait pas grand-chose à dire.
Ouais, Thierry Frémaux. J'ai rien dit. Donnez-nous les accréditations pour l'année prochaine. Mais présenté par Thierry Frémaux donc, et Marissa Berenson, qui est rien de moins que l'actrice principale de Barry Lyndon aux côtés de Feu Ryan O'Neill. et qui est venu nous livrer quelques anecdotes de tournage, quelques paroles aussi assez touchantes sur Ryan O'Neill, et surtout qui nous a regardé droit dans les yeux en nous disant « Enjoy !» Donc voilà, vos chroniqueurs et chroniqueuses ont pu bénéficier de la bénédiction de Marissa Berenson, on l'espère, pour le plus longtemps possible. Barry Lyndon, on l'avait vu tous les deux, on a eu l'occasion de le revoir. Mais Usine, qu'est-ce que ça faisait de revoir ce film assez monumental dans ces conditions-là et sous cette restauration-là ?
Déjà, ouais, c'était un plaisir de le voir sur grand écran parce que c'était la première fois que je le voyais sur grand écran.
Moi aussi.
Et les couleurs sont extrêmement, beaucoup plus vives que la version DVD que j'avais pu voir. Et ensuite, je pense que comme c'est le premier Kubrick que j'avais vu il y a un bon moment déjà, en fait, il y a plein de nouvelles choses qui me sont revenues en tête. Donc, je vais essayer de les énumérer rapidement. Mais déjà, en fait, ce qui m'a le plus marqué, je pense... En fait, je me rappelais très bien, parce que déjà, le film est construit de manière vraiment par étapes. Il y a le Rise and Fall, mais il y a aussi plein d'étapes au sein de ce Rise and Fall, basées sur la rencontre avec plein de personnages, parce que quand même, c'est une longue errance de Barry Lyndon avec plusieurs personnages, ceux qui lui volent son argent après l'héritage... Enfin, pardon, le premier duel, la déception amoureuse... il se fait voler son argent que lui a donné sa mère sur la route, puis la rencontre avec un certain nombre de mentors qui vont l'aider à monter les échelons, le mariage avec le personnage de Marissa Berenson et là, le gain de statut de classe, on va dire, le fait qu'il devienne lord, et ainsi de suite. Et ensuite le fol qui, je pense, est assez connu des auditeurs et auditrices. Et en fait, ce qui est marrant avec ce film et que j'avais complètement oublié, c'est que c'était lors d'une discussion avec un autre spectateur du film, Romain, un des auditeurs peut-être.
Romain, qu'on salue.
Qui avait remarqué assez justement que c'est un des seuls films de Kubrick, déjà qu'il a adapté lui-même. Donc c'est une adaptation de Thackeray, un romancier du 19e anglais. Mais il ne l'a pas adapté au cinéma, il me semble, avec un autre écrivain, chose qu'il a l'habitude de faire assez fréquemment. Et en fait, ça crée la présence d'un narrateur qui n'apparaît qu'à certains moments en voix off et qui fait des espèces d'incursions dans la diégèse pour commenter. Un peu ce que ferait un Stendhal en littérature. Commenter comme devant un animal in vitro les mouvements de celui-ci. Et donc ce narrateur, il apparaît seulement à certains moments pour présenter le personnage, pour commenter ses diverses pérégrinations. Et à deux moments précis, un arrêt sur image de Barry Lyndon montant dans un carrosse après un accident de duel, au moment où il est blessé. Et un autre moment qui est la fin, qui est le commentaire pour le coup écrit du narrateur sur les personnages « All are equal now
».
Donc sur une espèce de remise des personnages dans leur milieu d'origine pour dire que malgré leur mouvement dans le film et le fait qu'ils subissent différents sentiments et différents balancements de la part de l'auteur, ce ne sont que des personnages et que finalement l'auteur, donc Kubrick, qui à ce moment-là en fait se confond avec le narrateur, je pense, dans cette dernière, ce dernier carton, l'auteur a une sorte de toute puissance sur eux et n'aurait que joué avec eux le temps de 2h30. Et donc ce côté démiurgique-là, je le voyais pas du tout dans d'autres films de Kubrick, même si on sait que Kubrick est un réalisateur quand même qui donne beaucoup de lui, qui est très technicien, qui aime créer des mondes, qui aime jouer avec les genres. Très obsessif. Enfin, et même qui s'amuse à faire des films de guerre, des films d'amour, des films de tout type, en fait, des films de science-fiction. Voilà. Là, il y a une espèce de prégnance de cet auteur... et que j'avais totalement oublié, parce que pour moi, Kubrick, c'était un peu un artisan. C'était pas un auteur. Et ici, il devient un auteur, mais au sens littéraire du terme, en fait. Et donc ça, c'était très frappant lors de ce visionnage.
Ouais, et puis je crois que c'est ce qu'ajoutait Romain aussi, c'est que, en fait, sur cette dernière phrase, « They're all equal now », il y a l'idée que même le narrateur, en fait, devient... est rabaissé de son statut démiurgique au statut d'égal de tous. Qui serait en fait une sorte de pointe de cynisme ultime dans le film de Kubrick. Je suis d'accord, moi j'avais pas vu ça non plus, et c'est vrai que globalement redécouvrir le film, ça a été un vrai plaisir. La restauration est vraiment très très belle. Et
oui, c'est pas du tout ennuyeux, alors que je pensais que ce le serait, mais.
Mais enfin, pour le coup, le film, enfin, retrouve vraiment un éclat effectivement qu'on avait peut-être pas sur la version DVD. Et c'est vrai que, enfin, c'est tout bête, mais il y a des films comme ça qui sont un peu évidents. Et typiquement, alors, des fois ça finit presque par saouler tellement il revient, mais c'est vrai que quand on entend la musique de Handel au début, à la fin, au milieu, un peu tout le temps dans le film, ça fait quelque chose, cette ouverture-là, ce côté très, très maniéré, très pompeux en fait, du film. Et puis il y a tout un plaisir à suivre. Même en fait, même avec le cynisme de Kubrick, il y a quelque chose d'attachant dans ce film-là, d'attachant dans le détestable, qui je trouve assez passionnant. Alors après, il y a tous les jeux de construction visuelle de Kubrick.
Il n'y a pas tant de dézoom que ça. Je pensais qu'il y en avait plus.
Ah ouais?
Okay. Tu vois les moments où...
Oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu le truc signature du film.
Mais... Ouais, et qui est vachement ancré dans une époque aussi. Et je pense que j'avais été un peu dure parce qu'à l'époque où je l'avais vu, j'avais un peu remarqué ça comme une espèce de gimmick un peu maladroit. Ouais. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et au contraire, c'est encore une fois, je pense, remettre les objets qu'il étudie dans leur contexte, quoi. Dans leur décor à la bougie, dans leur décor naturel, tout ce que tu veux. Remettre Barry Lyndon au statut de petit personnage dans une intrigue qui le dépasse et qui un peu lui... Comment dire, se rira de lui à la fin, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, ça colle avec tout le choix de faire un film de tableau ouais. Avec beaucoup de plans fixes. Beaucoup de plans fixes qui sont construits, en fait, comme des tableaux classiques et qui jouent, en fait, sur tous ces effets de raffinement, de lumière très précise, presque d'une très, très légère fumée, enfin, très vaporeuse, en fait.
Oui.
En même temps, des... comment dire, de l'éclairage à la bougie, on l'a dit. Voilà. En fait, tout ce travail-là sur la composition et sur les couleurs et la lumière des cadres, en fait, il est tout aussi, entre guillemets, quelque part tout aussi vain que le personnage. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve autant de fumée. En fait, il y a le plan aussi très connu où Barry Lyndon fume sur Marissa Berenson.
Ouais.
En fait, ouais, ça respire la vanité. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très... Il y a ce cynisme, en fait, très éthéré de Kubrick qui rigole un peu, enfin, qui ricane un peu par-dessus tout ce qu'il montre et qui peut rebuter un peu. Mais je sais pas. Moi, j'avoue qu'à chaque fois, c'est un espèce de grand ballet tragique qui me prend pas au trip, mais qui, en tout cas, me prend dans son mouvement et qui me fascine à chaque fois. Et c'est vrai que là, le revoir... sur grand écran comme ça, dans cette restauration-là, c'était un vrai plaisir et un petit honneur en vrai.
Donc
voilà, c'était un peu le point d'exclamation sur ce festival de Cannes avant la journée de rattrapage de demain.
C'est ça. Mais en tout cas, pour la version restaurée, ça vaut le coup d'aller le revoir, même quand on le connaît bien.
Et puis je pense pour le fait d'aller le voir sur grand écran, ça peut être une bonne occasion. Parce que je sais pas à quel point le film en fait va... Enfin, je sais pas quand il ressortira. Et je sais pas du coup à quel point il va bénéficier d'une ressortie nationale vraiment d'ampleur, dans le sens où... en fait, le film de Kubrick est déjà très très disponible et même les anciennes éditions DVD etc sont toujours là. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez l'occasion, s'il repasse dans votre cinéma, franchement, n'hésitez pas. C'est jamais une mauvaise idée d'aller voir un Kubrick, d'aller le découvrir ou de le redécouvrir au cinéma, d'autant plus dans une version aussi chouette que celle-là. Et donc voilà pour Barry Lyndon, voilà pour cet épisode du comptoir du cinéma. Merci à toi, Mélusine. Pour ce 7e numéro du Comptoir du Cinéma et ce nouvel épisode du Comptoir du Festival de Cannes, merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous suivre et de continuer de nous suivre jusque-là. Il reste encore 2 épisodes, on y est bientôt. On se retrouve très vite pour la suite de la sélection, pour les rattrapages et pour la cérémonie de clôture. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous et si le cœur vous en dit, surtout de nous rejoindre, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous, à bientôt, vive le cinéma, vive Cannes et vive Transistor.